La dernière fois, je vous ai montré comment on pouvait, à propos de l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'ousia ?»« Qu'est-ce que c'est que l'être ?» plus exactement, « qu'est-ce que c'est que l'être ?» dans sa racine profonde, nous pouvions par le procédé de l'induction. Alors évidemment, ça demanderait beaucoup de réflexion philosophique et critique de bien comprendre ce que c'est que l'induction. Parce que nous sommes tellement habitués à l'induction baconienne que nous avons une peine énorme de découvrir la première induction. Bacon aurait dû prendre un autre mot, puisque ce mot existait déjà dans un sens particulier, et à partir de là, il a donné une autre signification. Parce qu'on peut dire qu'il y a deux mouvements, deux développements très très différents. Alors, je ne vais pas le traiter ici, c'est une question de critique, mais c'est bon de comprendre qu'il y a là un problème très difficile pour nous, à partir de l'interrogation qui revient à la réalité et sous la lumière de l'interrogation. Et c'est très important de comprendre que c'est sous la lumière d'interrogation. Aristote n'a pas beaucoup insisté là-dessus, ça c'est vrai. Mais c'est impliqué. C'est impliqué dedans. Si vous regardez attentivement, vous voyez que c'est impliqué dedans. Parce que c'est ça que Bacon a oublié. Donc, comme toujours, on est obligé, en face de certaines confusions, de faire beaucoup plus d'attention. Vous voyez ? Je prends un autre exemple. Le Tooti d'Aristote contient le jugement d'existence ceci est et implique il y a. Le Tooti implique les deux. Nous sommes obligés de faire plus d'attention qu'Aristote parce que de fait, il y a eu, c'est là où il y a un progrès philosophique, dans une pénétration plus grande, dans un souci de mieux voir comment certaines confusions ont pu exister. Le toan d'Aristote peut très bien exprimer le fait d'exister. Et le fait d'exister implique ceci est et il y a, les deux. Alors nous sommes obligés, à cause de Occam, de faire beaucoup plus d'attention. Et c'est constamment comme ça, c'est ça, je crois, le progrès de la philosophie. C'est qu'en face de certaines confusions, certains équivoques, on est obligé de faire beaucoup plus d'attention. Eh bien, Aristote n'avait devant lui qu'une méthode dialectique, celle de Platon. Il y avait un début embryonnaire de l'induction, un début embryonnaire, mais très peu, dans le Parménide, nous le verrons. C'est le premier ébauche de l'induction. C'est intéressant. C'est très intéressant parce que c'est la première ébauche. Aristote, de fait, c'est ceci alors dans les analytiques. C'est dans les analytiques qu'Aristote nous parle de l'induction au plan logique, si vous voulez, comme mouvement de l'esprit qui passe du singulier au principe, la découverte des principes. Vous voyez, c'est toujours la même question. D'où ça vient ? D'où, de fait, notre intelligence entre-t-elle dans une connaissance scientifique? Alors, Aristote découvre, c'est vraiment la grande découverte d'Aristote, que Platon avait découvert, j'allais dire, uniquement du côté de la disposition, pas d'une manière parfaite. Très intéressant de regarder la différence entre l'induction platonicienne du Parménide, l'induction aristotélicienne et l'induction baconienne. Ça, c'est très intéressant parce que c'est un moment tellement vivant de l'esprit. Pour Aristote, la vivacité de l'intelligence s'exprime dans l'induction. C'est pas dans la déduction. La déduction, tout le monde se la fait. C'est un peu bébête. Tandis que l'induction, c'est très intelligent. Et c'est pour ça, de fait, que des quantités n'arrivent pas. Je crois que ça, c'est l'épreuve de la qualité de l'intelligence. comme saint Thomas dirait, into sledgere. Il faut remonter à la source. C'est difficile de remonter à la source, parce qu'il y a un effort de l'intelligence. Alors là, il y a vraiment un appétit de l'intelligence qui veut dépasser l'opacité du sensible. Le sensible est à la fois lumineux et opaque. Il y a les deux. Nous allons le voir. Il faut dépasser l'opacité du sensible et la complexité du sensible pour redécouvrir la source de l'unité. Et la source de l'unité dans l'ordre de la vie, dans l'ordre de l'être. Mais c'est toujours la source de l'unité dans l'ordre de la vie, dans l'ordre de l'être. La source de l'unité dans l'ordre de la vie me permet d'induire l'âme, et la source de l'unité dans l'ordre de l'être me permet d'induire l'ousia. Alors, ce serait intéressant, je ne vais pas le faire ici parce que ce n'est pas le but premier du cours, ce serait très intéressant de voir en parallèle, ça vous pouvez le faire vous-même, la manière dont on induit l'âme, la manière dont on induit l'ousia. Et c'est sûrement pour nous, dans notre psychologie d'aujourd'hui, dans notre manière de regarder les choses aujourd'hui, c'est sûrement l'affrontement le plus efficace pour nous. C'est de regarder la manière dont on induit l'âme, la manière dont on induit l'ousia. Vous avez une certaine expérience affective de la présence de l'âme, tandis que vous n'avez pas de présence affective de l'ousia. Caressez-la bien pour la découvrir. Mais elle ne se montre pas, tandis que l'âme, elle, c'est différent. On a une certaine expérience affective de l'âme. Une certaine expérience, dans la mesure où il y a une certaine intériorité en nous, par l'expérience interne de l'amour, de la connaissance. Alors on découvre qu'il y a nécessairement là une source, une substance pensante, vous voyez. Mais la substance pensante, c'est l'âme. Hein, vous voyez là le petit clivage de Descartes, c'est intéressant à voir du reste. Quand il dit substance pensante, en réalité c'est l'âme. Et c'est vrai qu'il y a un passage presque immédiat du côté de l'âme. Alors, je peux avoir une certaine expérience affective. Et puis, cette expérience affective ne suffit pas. Il faut une induction pour découvrir l'âme comme principe propre de ce qui est du vivant. Mais l'âme est au niveau de la vie. Il faut découvrir quelque chose de plus, parce que la perspective de la vie n'est pas celle de l'être. Et c'est pas si commode que ça de dépasser la vie pour découvrir l'être. Hein. Les niveaux différents dans lesquels, de fait, nous découvrons. Alors là, je vous dis ça, c'est pour compléter ce que je vous avais dit la dernière fois. Il y a donc cette autre induction que nous pourrions prendre parallèlement avec celle de l'âme. Et ce serait intéressant parce que ça nous aide à mieux comprendre que l'ousia n'est pas l'âme. Et que pendant, l'âme est l'ousia. C'est merveilleux d'affirmer les deux. Alors à ce moment-là, vous commencez à comprendre que c'est assez subtil, n'est-ce pas ? Parce que c'est vrai, affirmer que l'ousia n'est pas l'âme, l'ousia comme principe selon la forme de ce qui est, n'est pas l'âme. Et pourtant, vous affirmez que l'âme est ousia. Alors comprenez la différence des deux, l'aller-retour. C'est toujours intéressant, parce que dans l'aller, vous voyez certaines perspectives, et dans le retour, vous en voyez d'autres. Et ce n'est pas le même paysage. Alors vous voyez bien que la découverte de l'âme, ce n'est pas l'ousia. Vous restez au niveau de la vie. Et cependant, pour moi, vivre c'est être. Cette fameuse affirmation, tu vois, pour moi, vivre c'est être. Mais ça ne veut pas dire parce que pour moi, vivre c'est être, que l'être égale la vie. Très intéressant, ce sont ces petites choses-là un peu subtiles qui sont intéressantes parce que ça nous fait comprendre que on verse facilement dans le fossé. Hein. Ça glisse. Et on voit très très bien que de fait, les deux choses se tiennent très, très fort. C'est vrai, pour moi, vivre, c'est pour moi, vivre, c'est être. Être, c'est vivre. Pour moi. Dans ma perspective. Et cependant, objectivement, je ne peux pas dire que l'être égale la vie. Le vivere. Une fois qu'on découvre l'ousia, puisque je reviens au terme de l'induction, une fois que nous découvrons l'ousia comme principe selon la forme de ce qui est, donc comme source de toutes les déterminations. Nous découvrons donc l'ousia comme un principe, comme une cause immanente de toutes les déterminations. Immanente à ce qui est. L'ousia est la source de toutes les déterminations d'un être existant. Vous voyez, l'ousia n'est pas source de l'être, mais source de toutes les déterminations de l'être existant. Il faut toujours bien distinguer les deux. Se pose alors à ce moment-là, je vais simplement souligner, se pose à ce moment-là le problème de savoir comment cette ousia existe de fait dans notre monde physique et en moi-même. Vous voyez, il y a deux problèmes différents. La découverte du tiesti et le problème du pos. Je vous ai déjà dit, et ceux qui ont déjà fait une année de métaphysique savent très bien que c'est tout à fait différent la distinction du tiesti et la distinction du pos. Et c'est très important de bien distinguer les deux. La distinction du tiesti, qu'est-ce ? Donc l'interrogation du qu'est-ce et le point de vue du comment. Et vous voyez, ceci est particulièrement important quand il s'agit de l'ousia. Parce que l'ousia est saisi comme un principe réel, hein, un principe source de toutes les déterminations de ce qui est. Je me pose la question, comment, de fait, ce principe existe-t-il ? Oui, ça nous fait très bien comprendre la différence qui existe entre la découverte du principe et une fois que j'ai découvert le principe, j'ai essayé de regarder comment de fait il existe. Vous voyez que là, il y a un problème très important, c'est de voir comment la matière est intégrée en métaphysique. Alors là, très gros problème, hein, et un problème très important, qui n'est pas du tout un petit problème, hein. C'est un problème très important. Ici, je suis obligé de vous rappeler que lorsqu'on regarde ce qui est mu, l'expérience de ce qui est mu me permet de découvrir la phusis. Et de découvrir la phusis, c'est-à-dire la nature. Hein. J'aime bien de le dire en grec, c'est mieux. Hein. Ça va mieux, nature. Mais ça peut aller encore. La nature, ça va encore. Mais la phusis, c'est la nature. Je découvre ce principe, c'est aussi un principe, non, un arché, c'est un principe immanent de ce qui est mu. Tout ce qui est mu d'un mouvement naturel, c'est-à-dire tout ce qui est mu, non pas d'une manière artificielle, mais tout ce qui est mu fondamentalement, implique un principe immanent qui est la phusis. Et je distingue tout de suite la phusis forme et la phusis matière. C'est à partir de la phusis que je découvre le point de vue de la forme et de la matière. Et c'est important de bien comprendre que l'induction de la phusis, c'est d'abord la phusis principe immanent du devenir qui, elle, implique une double détermination. Il y a une division de la phusis ici. La phusis forme, la phusis matière. Autrement dit, ce qui est mu, si j'essaie de comprendre ce qui est mu, je vois tout de suite qu'il y a un principe de détermination et une source d'indétermination. Parce que ce qui est mu implique nécessairement une indétermination. Ce qui est parfaitement déterminé n'est plus mu. Ce qui est mu implique une indétermination, une capacité d'être mu, une capacité de changement. On est capable de changer quand on est indéterminé. Quand on est parfaitement déterminé, impossibilité. Vous savez, l'homme têtu, hein, l'ornière, on sait très bien, incapable d'être déterminé. Bon. Alors ça peut venir de la matière, ça peut venir de la forme. Ça peut venir d'un esprit suréminent, ou ça peut venir d'un manque d'intelligence. Bon. Parce que c'est vrai, la matière a une espèce de de choses très très particulières. Donc, lorsque quelque chose est capable d'être changé, il y a une détermination et il y a une indétermination. La grande division de ce qui est mu, c'est en fusis forme, fusis matière. Cette distinction fusis forme et fusis matière est pour répondre à la perspective platonicienne de la séparation de la matière et des formes en soi. Donc là, il y a un grand problème, le problème d'Aristote face à ce que représente la vision platonicienne. Pour Platon, le mouvement n'est pas intelligible. Donc si j'étais platonicien jusqu'au bout, je n'accepterais pas les sciences physiques. Autrement, il y a une incohérence. Je dis, ah, la philosophie dit ça et la science dit autre chose. Parce que les sciences physiques me montrent qu'il y a une certaine intelligibilité dans le monde physique. Je suis bien obligé de le reconnaître. Tandis qu'au contraire, dans la perspective de Platon, la matière est non-être. Totalement inintelligible. La seule intelligibilité provient de la forme. Vous voyez, là, il y a eu quelque chose de très intelligent de la part d'Aristote, de voir que le mouvement implique une certaine intelligibilité. Ce qui est mu implique une intelligibilité. Et donc, il y a une possibilité d'une philosophie de la phusis. Il y a une possibilité d'une philosophie de la nature. Parce qu'il y a une intelligibilité propre de la nature. Cette intelligibilité propre de la nature se donne dans la découverte par l'induction de la nature principe immanent de ce qui est mu. Et que ce principe se divise tout de suite en phusis forme et phusis matière. Donc, la phusis matière est un principe propre de la philosophie de la nature. Un principe second, mais propre. Second parce que je ne saisis ce principe que par la forme. Cette fameuse affirmation que je crois très importante et qui est parfaitement vraie, la matière n'est saisie qu'à partir de la forme. Elle est saisie analogiquement. Je n'ai pas une saisie directe de la matière. Cherchez bien, vous ne la verrez jamais. Ce que vous saisissez, c'est les déterminations. La matière, c'est sous-jacent. Grattez, grattez, vous verrez toujours des déterminations. Vous n'arriverez jamais à saisir la matière propre immédiatement. Donc, ne dites pas à cause de ça que c'est une vue de l'esprit, hein, comme on dit de temps en temps. C'est une vue de l'esprit, c'est-à-dire c'est un principe d'un... Non, c'est un principe réel, constitutif de ce qui est mu. Donc la phusis forme et la phusis matière montrent les deux principes constitutifs de ce qui est. Ceci se retrouve d'une autre manière lorsque vous regardez ce qui se meut, c'est-à-dire le vivant. Pour le vivant, vous avez de nouveau découverte de l'âme et découverte du corps. C'est intéressant de voir où apparaît le corps. La matière, c'est pas le corps, hein. Tandis que le corps, c'est justement par rapport à l'âme. Vous découvrez directement, vous voyez, la division ne se fait pas tout à fait la même. C'est toujours très intéressant de voir la différence entre ce qui est mu et ce qui se meut, le vivant. Vous avez tout de suite distinction de l'âme et du corps. Tandis que de l'autre côté, vous avez d'abord la phusis, forme et matière. Alors, troisième distinction, ce qui est. La distinction de ce qui est n'est plus âme et corps, la distinction est tout de suite ousia et accident. C'est-à-dire, il était qualité, quantité, et ainsi de suite. Dès que je découvre l'ousia comme au-delà de toutes les catégories, comme au-delà du sujet, ce que nous avions vu la dernière fois, nécessairement, je distingue l'ousia de la qualité de la quantité. La première division dans l'ordre de l'être, c'est donc l'ousia et la qualité. Je dis bien l'ousia et la qualité, parce qu'on pourrait dire l'ousia et la relation. Ça dépend dans quel climat on se trouve. Si on se trouve dans un certain climat plus idéaliste, on dirait tout de suite la distinction entre ousia et relation. J'aime mieux dire ousia et qualité. Je crois que pour Aristote, c'est plus ça. Et je crois que pour nous, c'est aussi plus ça qu'il faut montrer. Mais ça n'empêche pas qu'il faut opposer ou diviser l'être en ousia et relation. Parce que de fait, l'être se divise en ousia, substance et relation. Je rappelle ça parce que c'est très très important de bien comprendre le fruit de ces trois inductions. L'induction au niveau de ce qui est mu, l'induction au niveau de ce qui se meut, l'induction au niveau de ce qui est. Je dis ça pour que nous comprenions bien, parce que certains disent la grande trouvaille d'Aristote, c'est la distinction entre la matière et la forme. On a tous vu ça dans des très bons livres. N'est-ce pas ? Alors la grande distinction d'Aristote, c'est la distinction entre la matière et la forme. Vous comprenez qu'un tel jugement n'est pas juste, historiquement et philosophiquement. Parce que la distinction de la matière et de la forme n'est pas d'Aristote, d'abord. Elle est de Platon. Et selon Breyer, elle n'est pas grecque. C'est intéressant. Selon Breyer, c'est le jugement de Breyer. Parce que quand Breyer regarde les stoïciens, ils disent que les stoïciens reviennent à regarder l'unité de l'être physique. Et là, nous sommes en présence de la grande tradition grecque. C'est intéressant, il faudrait voir dans quelle mesure ce jugement de Breyer est juste, mais il est intéressant à noter. Parce que c'est très vrai que la distinction de la matière et de la forme, d'une certaine manière, peut provenir de la distinction de l'âme et du corps. Et je crois que chez Platon, c'est cette distinction de l'âme et du corps qui est première. À partir de là, il la projette sur la phusis et il la projette sur l'être. C'est toujours intéressant. Or, la distinction de l'âme et du corps est une distinction qui provient des traditions religieuses et des traditions religieuses de l'Inde et qui ont été introduites en philosophie grecque par Platon. Toujours important de voir une distinction aussi importante que l'âme et le corps. On est quand même une distinction très fondamentale. Elle n'est pas grecque selon son origine. Elle a été baptisée par Platon. Baptisée d'un baptême philosophique. Elle a été baptisée par Platon, le baptême philosophique qu'en a fait subir Platon pour essayer de comprendre quand l'âme est le corps. Aristote n'accepte pas ce baptême platonicien et veut tout reprendre par le point de vue de la phusis. C'est ça qui est intéressant à voir. Il reprend tout par la phusis. Pour Platon, la phusis était vue à partir de la distinction de l'âme et du corps. Aristote fait juste l'inverse. Il dit non, il faut regarder ce qui est mu. Et c'est à partir de ce qui est mu qu'il comprend la distinction de ce qui se meut et qu'il comprend la distinction de ce qui est. Donc la distinction de la matière et de la forme n'est pas aristotélicienne. Elle est reprise par Aristote au niveau de la phusis. Et c'est très important de comprendre ça. Parce que la distinction de la matière et de la forme, pour Aristote, est une distinction de l'œuvre artistique et non pas de la nature. Alors on fausse tout si on commence à regarder la matière et la forme. On doit regarder au contraire le point de vue de la phusis. Ça c'est très vrai, c'est la découverte de la phusis qui est proprement aristotélicienne. Et de voir que la phusis se distingue en phusis forme et phusis matière. C'est pas la même chose, vous voyez, vous verrez ça progressivement. Si vous ne le voyez pas maintenant, c'est intéressant à noter. Il faut essayer de comprendre ces petites confusions qu'on peut faire et qu'on a faites et qui fait qu'à partir de là, il y a des tas de choses qu'on ne comprend plus. Alors, il faut comprendre que Aristote redécouvre la phusis comme un principe et ce principe se divise en phusis forme, phusis matière. Donc, la distinction de phusis forme et phusis matière est propre à la philosophie de la nature. Pour ce qui est mu. Déjà, quand je suis au niveau du vivant, la distinction se présente autrement. C'est l'âme et le corps. Et le gros problème, c'est de montrer que l'âme est phusis et que le corps est phusis. C'est le grand problème, parce que l'âme peut être une âme spirituelle, de anima. Alors, comment l'âme spirituelle peut être encore une phusis? Est-elle encore une phusis? Ou est-ce qu'au fond, elle est l'éclatement de la phusis? Ce que je crois. L'âme spirituelle n'est plus, au sens fort, une nature. Il y a l'éclatement de la nature dans l'âme spirituelle. Or, pour Aristote, c'est ça qui est intéressant. C'est l'âme spirituelle qui est au sommet de toutes les âmes. Alors, c'est un gros problème. Vous voyez, on voit très bien comment le problème platonicien est repris d'une manière différente, ce qui est mu, ce qui se meut. Puis, troisième distinction, ce qui est. On retrouve l'ousia, donc au niveau de l'être. L'ousia est au-delà de la forme. Et cette division de l'être se fait en ousia et qualité, et non plus entre forme et matière. Par le fait même, le gros problème qui se pose, c'est de savoir si la division de l'être se fait en ousia et qualité, la matière est donc en dehors du regard de la métaphysique. Alors, vous voyez, on aurait la tendance de dire, alors, bon, la matière, la métaphysique ne le regarde pas. Ce sont les miettes métaphysiques. Tout ce qui est matériel, laissons-le tomber. Ça n'intéresse absolument pas la métaphysique. Ce serait très grave. Parce qu'alors, à ce moment-là, vous voyez, la métaphysique impliquerait la séparation à l'égard du monde physique. On aurait un petit schème semblable, vous voyez, au schème heideggerien, les temps et l'être. L'être est séparé de l'étang, ou des étangs. L'être est séparé des étangs. Les étangs sont au niveau sensible, au niveau matériel, et l'être est en dehors. Et donc, il y aurait la tendance de considérer que la métaphysique est à partir d'une séparation du monde physique, du monde sensible, et que la métaphysique n'a rien à dire au monde physique et sensible. Alors, la métaphysique ne pourrait plus considérer l'homme. La métaphysique ne considérerait dans l'homme que le nous. Et elle ne considérerait pas la personne humaine. Là, il y a quelque chose qui est très important à bien saisir, hein, mais qui n'est pas commode, puisque c'est de fait voir comment la première induction de philosophie première, de métaphysique, c'est découvrir l'ousia qui se distingue de la qualité, et je ne parle pas de la matière. Je pourrais me poser la question, alors, comprenez bien, je pourrais me poser la question, en quoi est l'être ? La seconde interrogation. En quoi est l'être? Quand je me pose la question en quoi est cette table, je découvre la cause matérielle de cette table. Et quand vous vous posez la question en quoi est l'être, posez-vous la question, puis essayez de la découvrir. Cherchez pas trop longtemps parce que vous allez vous casser la tête. En quoi est l'être? Vous voyez qu'il n'y a pas de réponse. Très curieux. L'interrogation « En quoi est l'être ?» n'aboutit pas à l'être. Je ne peux pas saisir l'être par la matière. Il n'y a pas un principe selon la matière qui me permet d'atteindre l'être. Très curieux. Pourquoi ? Parce que l'être est essentiellement déterminé et que la matière est essentiellement indéterminée. Si la matière est essentiellement seconde, je peux le dire, déjà en philosophie de la nature, puisque la phusis forme est première et la phusis matière est seconde. Si donc la matière est essentiellement seconde, elle ne peut pas être un principe propre de ce qui est. Donc il n'y a pas de réponse à l'interrogation en quoi est la matière. Cependant, souligner que deux philosophes ont découvert la matière comme un principe propre de ce qui est. Averroès et Lénine. C'est intéressant. Averroès et Lénine, tous les deux. Je crois que c'est les deux qui ont regardé la métaphysique d'Aristote, les deux qui l'ont commentée. Eh bien, les deux, en commentant la métaphysique d'Aristote, la philosophie première d'Aristote, dit que la matière est un principe propre de l'être. Mais confusion de ce qui est mu et de l'être. C'est intéressant à noter, parce que c'est quand même quelque chose de difficile à saisir. Si je découvre l'ousia, je découvre que l'être est radicalement déterminé. Dans l'ousia. L'ousia est source de toutes les déterminations. Donc je peux dire que l'être est radicalement déterminé dans l'ousia. Si l'être est radicalement déterminé dans l'ousia, quand je me pose la question en quoi est l'être, pas de réponse. Très curieux. Je suis obligé de prendre un détour. Alors est-ce que la philosophie première va laisser tomber le problème de la matière? Eh bien non, la philosophie première ne peut pas laisser tomber le problème de la matière. Parce qu'autrement, je ferai cette division, les étants et l'être. Oui, c'est très intéressant pour comprendre la position heideggerienne. De voir que le fait de mettre une opposition entre les étants et l'être provient que, de fait, on considère que l'être n'a rien à voir avec la matière. Puisque les étangs, c'est ce qui est mesurable. C'est donc les réalités sensibles. Alors à ce moment-là, on retombe de considérer que la matière est du non-être. Nécessairement, la matière est du non-être. Et donc, si la matière est du non-être, l'être n'a rien à voir avec la matière. Vous voyez, la vieille position platonicienne qui renaît. Parce que si je mets cette opposition, ça prouve que justement, la matière n'a rien à voir avec le point de vue de l'être. Donc elle est du non-être. Si au contraire, j'ai compris que la matière avait quelque chose à faire avec ce qui est mu, or ce qui est mu existe, donc la matière existe, la phusis matière existe, la phusis forme existe, comme des principes propres qui constituent ce qui est mu. Or ce qui est mu existe. Et c'est à partir de ce qui est mu que je saisis le jugement d'existence et que c'est mon premier toucher avec la réalité. Vous n'avez aucune expérience avec une réalité qui est au-delà du devenir. Toutes les réalités que vous expérimentez impliquent le devenir. Toutes. Vous n'avez pas une expérience avec l'immobile. Et la science moderne le confirme. Elle montre que toutes les réalités que vous expérimentez sont dans le devenir. Alors si toutes les réalités que vous expérimentez sont dans le devenir et que vous mettez l'être en dehors du devenir, vous n'avez donc aucune expérience de l'être et donc vous ne pouvez parler de l'être qu'à partir de votre idée. Et donc c'est une idéologie. Vous voyez, tout se tient, il faut bien saisir ces choses-là, parce que c'est important, c'est subtil, comme toujours la philosophie première. On est sur une crête et on voit comment on dégringole assez facilement d'un côté ou de l'autre. Il faut donc essayer de comprendre comment s'intègre la matière dans la vision de la philosophie première. Elle s'intègre à partir de la substance. Première intégration. Il y en aura une seconde à partir de l'acte. Mais première intégration à partir de la substance. C'est quand je me pose la question, comment existe la substance? Je l'ai découvert à partir de moi, je l'ai découvert à partir des vivants. Je vois que cette substance, en effet, implique une complexité. Alors qu'en elle-même, elle est indivisible. En elle-même, la substance, elle est principe. Donc, elle est indivisible. Si elle est arquée, elle est indivisible. C'est le propre de tout principe d'être indivisible. Ce au-delà de quoi je ne peux pas remonter. C'est le propre du principe. Donc c'est toujours indivisible. Or, les substances qui existe autour de moi, moi-même, implique une complexité. Il faut donc essayer de saisir là le fameux problème de la substance individuelle, individuée. Comprendre comment la substance qui est en moi existe dans la complexité et donc qu'elle assume la matière. Vous voyez, l'être n'est pas la matière, mais l'être ne boude pas la matière. Mais l'être assume la matière. Et il l'assume par l'ousia. Pour comprendre comment l'ousia va de fait se réaliser à travers la complexité et dans la complexité. Alors, pour bien comprendre ce problème-là, comment de fait, le comment de l'ousia, comment l'ousia existe-t-elle? Comment l'ousia se trouve réalisée en moi-même? Et revenez, si vous voulez, au problème de l'âme et du corps. Ça peut vous aider. L'âme existe dans le corps. Je n'ai jamais expérimenté une âme en dehors de mon corps. Vous l'expérimentez dans des rêves et des cauchemars. Vous pouvez expérimenter que votre âme quitte votre corps et que vous regardez votre corps cadavérique. C'est un drôle de rêve à faire, mais ça peut se faire. Enfin, peut très bien expérimenter ça. Puis vous vous réveillez en disant « Ah, je suis dans mon corps. Ben, » c'est pas encore si mal, n'est-ce pas? Mais vous pouvez très bien expérimenter, avoir ce rêve-là. Ça peut se faire, mais c'est un rêve. Ce n'est pas une réalité. Vous n'avez aucune expérience de votre âme séparée. Aucune. Vous avez l'expérience de la complexité dans laquelle vous êtes. Vous voyez donc que votre âme, vous l'avez saisie à partir de la complexité, et la substance, vous l'avez saisie à partir de la complexité. Donc, il y a l'aller et le retour. Vous voyez bien, il y a l'aller et le retour. Pour découvrir l'ousia comme principe, je suis parti de la composition et de la complexité, et dans cette composition et cette complexité, j'ai regardé l'unité. Une fois que j'ai découvert l'unité, je reviens à la complexité. Et je comprends comment, de fait, l'ousia se trouve réalisée. Elle se trouve réalisée dans la complexité. Et quelle est la source de cette complexité? C'est la matière. Vous voyez donc comment, au plan métaphysique, au plan philosophie première, le comment de la substance me permet d'assumer ce principe de complexité qui est la matière. La matière n'est pas un principe d'être, elle est un principe de complexité de devenir. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Elle existe réellement, mais elle n'est pas un principe propre de ce qui est. Elle est source de toute la complexité de toutes les substances, de tout ce que je vois dans le monde physique. Elle est source de la complexité du devenir. Elle n'est pas le devenir, elle est le sujet du devenir. Et parce qu'elle est sujet du devenir, elle permet au devenir d'exister. Et comme sujet, elle est ce qui permet de comprendre comment on passe d'un contraire à l'autre. Mais elle n'est pas principe propre de ce qui est. Alors regardons cette complexité. Parce que c'est important de regarder cette complexité. Le comment de l'ousia. Pour regarder le comment de l'ousia, je suis obligé de regarder que la division, la découverte de l'ousia, mais l'ousia divisée de la qualité, divisée de la quantité, divisée de la relation. Si je veux regarder la complexité de l'ousia et le comment de l'ousia, je suis obligé de regarder ce que c'est que la qualité, ce que c'est que la quantité, ce que c'est que la relation. Oui, je suis parti de la complexité des déterminations qui sont en moi et du problème de l'unité à l'intérieur de cette complexité pour poser l'ousia. Maintenant, je reviens, après avoir découvert ce que c'est que l'ousia, je reviens Dans la lumière de Lousia, qu'est-ce que c'est que la qualité? Dans la lumière de Lousia, qu'est-ce que c'est que la quantité? Dans la lumière de Lousia, qu'est-ce que c'est que la relation? C'est intéressant de voir ça. De voir qu'il n'y a pas d'opposition entre la substance et la qualité. Il y a au contraire un lien très fort, puisque Lousia est source de toutes les qualités. Et donc, la qualité m'a aidé à découvrir Lousia en dépassant la qualité. Mais maintenant, la qualité peut m'aider à comprendre toute la richesse de cette source. Vous avez bien, une source, c'est toujours un peu caché. On ne la découvre qu'en fonction de ce qui jaillit d'elle. Et alors, c'est le jaillissement de la source qui me permet de comprendre l'intensité de la source. Eh bien, quel est le jaillissement de Lousia? Ce sont toutes les qualités que je découvre. Des qualités qui sont en moi, ou qui sont dans mon voisin. Certaines, j'aime mieux les regarder dans mon voisin, parce qu'elles sont plus manifestes dans mon voisin. Et d'autres, j'aime mieux les regarder en moi, parce qu'elles sont plus manifestes en moi. Chacun d'entre nous, on découvre cette diversité des qualités. Le domaine des qualités, au point de vue métaphysique, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que la qualité regardée dans la lumière de Lousia? Vous voyez, la question qu'il faut se poser. On est habitué à regarder ce que c'est que les qualités au niveau catégorie. J'ai un sens de la qualité au niveau catégorie, puisque la qualité fait partie des catégories. Mais faites attention, notre regard ici sur la qualité n'est pas un regard catégorial. Alors là, c'est assez subtil, il faut bien distinguer. La qualité saisie au niveau de l'attribution, du legein, et la qualité saisie au niveau métaphysique dans la lumière de la substance. Alors, dans la lumière de la substance, qu'est-ce que c'est que la qualité? La qualité ennoblit la réalité. Vous voyez, au fond, ce serait tout le problème, si vous voulez, vous pourrez bien comprendre. Avec le problème des valeurs d'aujourd'hui. Qualité et valeur, il y a une ressemblance. Et c'est pourtant pas tout à fait la même chose. Mais c'est là où il faudrait essayer de saisir qu'est-ce que c'est que les valeurs. Vous voyez, aujourd'hui on dit les valeurs. Valoriser un être. On sait le qualifier. Radicalement, toute valeur repose sur une qualité. Alors, il y a un aspect plus subjectif dans le point de vue des valeurs que l'aspect des qualités au niveau métaphysique. Mais il ne faut pas les séparer. Il faut simplement mettre un lien entre les deux. Regardez dans Le Sen, par exemple, toute la grande philosophie qu'il a fait de la qualité, des valeurs. Eh bien, vous retrouvez la philosophie des qualités. C'est très intéressant de voir ça. Vous retrouvez, de fait, toute la philosophie des qualités dans le point de vue des valeurs. Mais alors, évidemment, la distinction entre Lousia et qualité est moins bien faite. Parce que les valeurs, on peut les regarder au niveau de la personne. On peut les regarder au niveau de l'individu. On peut les regarder au niveau de l'espèce. Vous voyez, c'est pas fait de la même façon. Mais c'est intéressant de mettre le parallélisme entre les deux. Alors, au niveau métaphysique, dans la lumière de la substance, qu'est-ce que c'est que la qualité? La qualité ennoblit. C'est le propre de la qualité. La qualité vous donne votre originalité. Un ouvrier qualifié a toujours son originalité. Ça ne veut pas dire que le type original est nécessairement quelqu'un de qualitatif. Parce qu'il y a des originalités qui ne proviennent pas de la qualité. Mais tout être qualifié est original. Et je ne dis pas tout être original est qualifié. Il faut bien distinguer les deux. Mais c'est vrai que la qualité ennoblit. Elle donne à l'être une certaine dimension spéciale, une détermination qui fait que cet être se manifeste. Je crois qu'il y a les deux aspects dans la qualité. Les qualités, c'est ce que nous connaissons le plus immédiatement. Et les qualités, parce que c'est ce que nous connaissons le plus immédiatement, Notre toucher avec le monde physique, c'est toujours par la qualité. Votre rencontre avec telle ou telle personne, c'est toujours la qualité. Telle ou telle qualité qui m'a frappé. Bon, et les qualités, ça va loin. Hein. La beauté implique la qualité. La beauté du regard, la lumière du regard, ou bien la profondeur du regard. C'est la qualité, ça. Ça fait partie de la rencontre. On rencontre toujours un être par le point de vue qualitatif. Il y a des êtres qu'on ne rencontre jamais. Il manque de qualité.